à Impulsion Pentecôte 2025. Un peu de joie, on applaudit le Seigneur qui est là avec nous. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, on fête la 136e édition de cet événement. Ça fait 136 ans que les chrétiens d'Alsace du Nord se retrouvent pour fêter ensemble la Pentecôte. Et ce soir, donc, on est ensemble pour la soirée jeunesse et pour tous ceux qui sont restés jeunes, évidemment. Ouais, il y en a aussi, c'est très bien. Alors, le but de cette soirée et de ce week-end Impulsion, c'est vraiment de rassembler les chrétiens, c'est de vous équiper dans votre foi et aussi de vous mettre au défi dans ce que vous vivez avec le Seigneur lorsque vous allez repartir dans votre quotidien. Voilà, le thème de la soirée d'aujourd'hui. Le thème de la soirée, c'est « Suivre Jésus, est-ce que ça vaut le coup ?» Est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus ? Et je pense qu'on a tous des critères pour dire que quelque chose vaut le coup ou pas. Par exemple, certains de vous, ils se sont dit « Bon, à quoi ça sert de jouer le jeu ? Moi, ça ne m'intéresse pas forcément de gagner quelque chose. » Mais parfois, on a des critères pour dire que quelque chose est important, qui sont pareils des autres, pareils par rapport aux autres, et parfois, ils sont différents. Par exemple, sur la présentation, on va voir... En fonction des choses que on voit, par exemple un t-shirt, qu'est-ce que vous pensez qu'il vaut ce t-shirt ? Ouais, vous pouvez dire, hein, n'hésitez pas. Hein. 40-30 euros comme ça ? Bah, en fait, ça dépend où vous l'achetez. S'il est en promotion, c'est 20 euros, sinon c'est 30 euros. Ça dépend vraiment où vous l'achetez finalement. Mais ce tableau-là, vous le connaissez ? Quelle valeur est-ce qu'il a ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Vous pouvez estimer, hein ? Quelques millions ? Combien de millions ? 10 millions ? 20 millions ? Quelqu'un plus ? 120 millions ? Eh bien, ce tableau-là, il vaut 450 millions. En tout cas, pour la personne qui l'a acheté, c'est un Saoudien qui l'a acheté pour ce prix-là. Il n'est pas chrétien, mais il a acheté Jésus pour 450 millions. On peut se poser la question pourquoi. Mais je pense que là, c'est un exemple où on voit que le tableau, il vaut ce que la personne elle est prête à donner et à payer pour. Parce que c'était lors d'une auction et le dernier qui a voulu donner le plus pour ce tableau, c'était lui. Et finalement, on a aussi des choses dont la valeur n'est pas relative. Par exemple, ce billet, bah, qu'est-ce qu'il vaut ? 50 euros, il est chiffonné, mais peu importe s'il est chiffonné ou s'il est bien, ou si c'est toi ou moi qui l'a, il vaudra toujours 50 euros. C'est quelque chose qui est sûr, une valeur sûre, en tout cas monétairement parlant. Maintenant, qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux ? Et si on parlait un peu de Jésus, quelle valeur est-ce qu'il a à tes yeux ? Et je vous propose de discuter juste avec votre voisin de quelques questions qui vont préparer un peu le thème avant que notre orateur vienne. Est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus ? Je propose de discuter un peu autour de trois questions. Suivre Jésus rend la vie plus facile. Bon, c'est une affirmation, hein. Oui, non, peut-être. Il faut abandonner beaucoup de choses pour suivre Jésus. Oui, non, peut-être. Si Dieu me demandait de choisir entre vivre avec une femme, un homme pour laquelle j'ai des sentiments amoureux, et suivre Jésus, honnêtement, qu'est-ce que je choisirais ? Eh bien, j'accueille avec nous Pascal, qui du coup est venu après ses difficultés avec le train. Bienvenue Pascal.
Merci.
On peut l'applaudir, hein ? Alors, tu habites à Lille, c'est presque 6 heures d'ici, théoriquement, en voiture. Mais du coup, tu as pris le train et ça a duré combien d'heures ?
Ça va, je suis parti à 13 heures.
D'accord. D'ailleurs, tu n'as pas de micro, donc je te donne celui-là.
Super, merci.
Alors, Ton nom semble nous indiquer que tu viens soit d'Allemagne, soit de Suisse, soit d'Alsace.
Oui, je suis né à Ingwiller.
Oh, il y a des gens d'Ingwiller ici? Mais, ouais, voilà. Quelques-uns, ils sont pas très nombreux, mais...
Où je suis né, c'est un EHPAD maintenant, apparemment.
Alors dis-moi, tu es originaire d'Ingwiller, donc maintenant tu habites à Lille. Ça veut dire que ta famille est encore ici dans le coin ou...
Non, non, non. J'ai vécu 3 jours en Alsace et après on a déménagé dans les Vosges.
Ah,
et j'ai grandi dans les Vosges et puis je suis lillois depuis une vingtaine d'années.
Ok. Et sur le site internet d'Impulsion, on a vu aussi que tu travailles au foyer évangélique universitaire de Lille. Oui. Et donc tu travailles, j'imagine, avec des jeunes. En quoi consiste ton travail de tous les jours ?
Mon travail de tous les jours, alors il y a pas mal de choses. Il y a partager l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui viennent de toute la planète et qui ne connaissent pas l'évangile. Ça, c'est ce qui me passionne le plus. Et puis, il y a aussi être avec des jeunes étudiants chrétiens. On a 13 chambres qu'on loue sur place. Donc, pouvoir les accompagner dans ce qu'ils vivent avec Dieu et puis les encourager à s'investir dans l'église locale.
Alors, si jamais il y a des jeunes ici qui veulent un jour étudier à Lille, vous savez vers qui vous tournez.
Si vous cherchez le soleil...
C'était une blague, hein?
Oui, je confirme.
Alors, pour apprendre à te connaître un peu, je te propose un jeu de finition de phrase. Donc, je commence une phrase et okay. Tu la termines. Entre le foot et le handball, je choisis...
Le foot.
Clairement.
Ah oui.
Là, t'es
bah
fan,
oui.
Hein, je le sens. Direct, t'es fan de qui?
Alors non, j'aime jouer.
Ah oui, ouais, ok, ouais, cool. Ouais. Moi aussi.
Après, si le PSG gagne, c'est pas grave, mais j'aime jouer.
Ouais. D'accord. Le plus bel endroit que tu as vu dans ta vie, c'était...
Ah là, c'est chaud.
C'est chaud, hein.
C'est pas Lille.
C'était l'Alsace. L'Alsace du Nord.
La Bretagne, c'est pas mal.
Ah ouais, ouais, je vais en vacances en Bretagne
ouais.
En été.
Ouais, c'est bien.
Tu me donnes envie, là.
C'est bien,
ouais. J'ai aussi entendu que tu as 5 enfants.
Oui.
Qu'est-ce que tu aimes ? Alors, avec tes 5 enfants, qu'est-ce que tu aimes le plus ?
Transmettre une passion.
Oh, ça donne envie de poser la question.
Ouais, bah tout, je sais pas. La passion de la persévérance, par exemple. Je bosse avec des étudiants et donc je vois qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec la persévérance. Donc je me dis, transmettre la niaque pour aller au bout. Voilà. Mes deux fistons ont 13 ans et 11 ans. On a fait 185 km de vélo dimanche dernier.
Oh.
Et voilà, l'idée c'est aller au bout.
Purée, ils ont effectivement là, ils ont de la persévérance hein, pour le coup. Hein. Il y a encore des enfants de 13-14 ans qui font 180 km en vélo ici, non ?
Bon, après, c'est plat. Hein.
Ah ouais, d'accord, ouais, ok. C'est pas comme ici les Vosges du Nord.
C'est pas le même défi. Hein.
Alors, tu as donné ta vie à Jésus à l'âge de
17 ans.
Oh.
Ouais.
Tu le sais assez précisément, il y a eu un événement clé.
Ben, en tout cas, par rapport au thème de ce soir, suivre Jésus, je pense que j'ai jamais douté de l'existence de Dieu depuis tout petit. J'avais peur de l'enfer, j'avais peut-être 4 ans, et donc je cherchais un sauveur. Je me souviens, 8-9 ans, je m'endormais le soir en pleurant, en pensant à mes copains qui allaient en enfer. Au lycée, on m'appelait Jésus. Mais c'est pas pour autant que vraiment je suivais Jésus. Donc qu'est-ce que je vivais avant ? Je vais en parler peut-être un peu tout à l'heure, mais en tout cas, c'était peut-être pas suivre Jésus.
Tu me donnes envie d'en savoir ouais. Plus. Alors, dernière phrase, finalement, suivre Jésus, ça vaut vraiment le coup si...
Ben, si on a vraiment compris ce que c'est.
Hmm.
Sinon, ça peut être pourri.
Ok, alors avec ça, on te laisse la place pour nous dire ce que ça veut dire. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vais piquer un pupitre parce que moi je suis un peu vieux, j'ai pas de... Tac, tac. Et je vois qu'il y a Jacques l'assistant, merci beaucoup. Fantastique. Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous avez comme définition de suivre Jésus. En tout cas, quand on chante et quand on parle de suivre Jésus, visiblement, dans les paroles, on est à fond. On se dit, c'est ce qu'il y a de mieux. Même face aux tentations du monde, moi, je suis Jésus. Moi, j'en connais pas mal, face aux tentations du monde, ils suivent la tentation. Hein. Mais bien sûr, c'est ce qu'on voudrait par la foi. On chante par la foi, on voudrait, bien sûr, suivre Jésus. Mais est-ce qu'on a la bonne définition de ce que c'est que suivre Jésus ? Est-ce que ça vaut le coup ? Alors ce soir, je vous propose de regarder un peu ce que c'est que suivre Jésus. Si moi j'avais une mauvaise définition quand j'étais jeune, je ne suis pas le seul à avoir une mauvaise définition, ça j'en suis sûr. Je vous disais que j'aime partager l'évangile avec des étudiants qui ne connaissent pas du tout l'évangile. Et en ce moment, tous les mardis soirs, je lis la Bible avec un étudiant qui vient de Guinée-Conakry et qui ne connaît pas du tout l'évangile, mais il dévore la Bible. Il veut passer l'éternité avec Dieu. Et presque chaque mardi, on étudie un autre livre. Et quand on a étudié Galates, il m'a dit « Mais ce texte est révolutionnaire !» J'ai jamais vu rien d'aussi beau. Aucune autre religion ne pourrait dire Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Personne d'autre pourrait dire ça qu'un chrétien. Et là, je me suis dit, ouah, c'est vraiment merveilleux. La parole de Dieu est merveilleuse. Il se dit déjà musulman messianique. Ça n'existe pas. Mais en tout cas, il exprime sa passion pour le Messie. Sauf qu'après, ascenseur émotif, il me dit... Le problème, c'est que quand je regarde les chrétiens, je n'ai pas l'impression qu'ils vivent ce qui est écrit. Ils vivent comme les autres humains. Je ne vois pas de changement aussi radical que ça. Dans le texte, c'est ouf. Mais quand je regarde... Alors moi, j'aimerais lui répondre. Je ne sais pas ce que toi, tu répondrais. Il est là en face de moi. J'aimerais lui dire. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent être chrétiens, mais en fait, qui ne le sont pas du tout. Il faut que tu regardes ceux qui suivent vraiment Jésus. Ou j'aimerais lui dire, ben, tu sais, dans ma vie aussi, enfin, je suis Jésus, mais les progrès sont progressifs, justement. Donc, ce n'est pas immédiat. Je ne suis pas Jésus moi-même. Ou j'aimerais lui donner quelques exemples de personnes qui vraiment suivent Jésus et ça a été un changement radical. Ça existe. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour leur foi, ça existe, qui ont vécu des changements de vie radicaux. J'aimerais même lui dire, tu sais quoi ? Essaye de suivre Jésus et tu me diras si ça change quelque chose. Ou alors, regardons la Bible et on va voir ce que c'est que suivre Jésus. En fait, je lui ai dit un peu les cinq réponses. Mais ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va aller regarder dans la Bible ce que ça change vraiment de suivre Jésus. Ici, maintenant, concrètement. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Mais on va regarder ce que dit la Bible. Peut-être pour certains, suivre Jésus, c'est aller à l'église et prier avant le repas. C'est pas révolutionnaire. Peut-être pour certains, suivre Jésus, c'est l'essentiel, c'est Jésus. Et à côté, j'ai mes loisirs, mes passions, le foot, voilà, des choses qui m'animent. En fait, moi, quand je vois certaines personnes, quand je vois leur petit loisir à côté, genre le foot, le temps qui passe pour le foot... La manière dont ils contemplent le foot, l'argent qu'ils mettent pour le foot, je me dis, c'est ballot que ce ne soit pas Jésus leur loisir et leur centre le foot. Parce que là, vraiment, ils seraient au taquet pour Jésus. C'est révolutionnaire de suivre Jésus ou pas ? Que dit vraiment Jésus ? Alors, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le qui est-ce ? C'est un vieux jeu pour les petits. Okay ? Un vieux jeu, il est de 79, il a mon âge, respect. Voilà, il y a des personnages. Et puis, on dit, il a une moustache ou pas ? Non, il n'a pas de moustache. Blim, on enlève tous ceux qui ont une moustache, etc. On va faire ça pour voir à quoi ressemble le profil de celui qui suit Jésus. Et au fur et à mesure, dans la salle, on va faire bling, 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 bling. Et on va voir qui reste à la fin. OK ? Ça, c'est le jeu que je vous propose. Et donc, au fur et à mesure, vous aurez l'occasion de vous poser la question « Est-ce que c'est moi ?» Et deuxième question « Est-ce que ça vaut le coup ?» Et on verra ceux qui restent s'ils pensent que ça vaut le coup et ceux qui ne sont plus là s'ils pensent que, en fait, ça aurait valu le coup. Et comment est-ce qu'on va jouer ce petit jeu ? Bah, je vais faire deux zooms différents. Un zoom où on va regarder le moment où Jésus appelle ses disciples et puis on va voir trois points sur ce zoom. Et puis un autre zoom quand Jésus décrit ceux qui le suivent. Les citoyens de son royaume. On va voir à quoi ils ressemblent. Et puis, bim, bim, on va voir. Hein. C'est parti. Alors, le premier zoom, quand Jésus appelle les disciples à le suivre. Je lis dans Matthieu chapitre 4, les versets 18 à 19. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit... « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Trois petits points. Il leur dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Trois caractéristiques où on voit à quoi ressemblent ceux qui suivent Jésus. Il leur dit, ceux qui suivent Jésus sont conscients d'avoir été appelés par Jésus. C'est surprenant ? Pourquoi il faut le relever ? Bah oui, parce que c'est quand même surprenant qu'il y ait un maître qui appelle des disciples. J'ai dit que je bosse avec des étudiants. J'ai jamais vu un docteur en mathématiques aller chercher comme ça un gars pour faire une thèse. Normalement, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est le petit jeune qui cherche un professeur émérite pour faire son doctorat. Là, en plus, c'est Jésus. C'est pas juste un professeur en sciences. C'est Jésus qui s'abaisse au point d'aller chercher lui-même des disciples. Et il les cherche pas dans une école de théologie. Il les cherche là où ils sont, en train de pêcher. C'est un peu le professeur de mathématiques qui va chercher son thésard à Lidl en faisant ses courses. Il est là, paf, il le prend. Allez hop, probabilité, c'est parti. Waouh. Est-ce que c'est étrange ? Oui. Est-ce que c'est exceptionnel ? Ben, quand on connaît le Dieu de la Bible, c'est pas aussi exceptionnel que ça que ce soit Dieu qui cherche l'homme. Parce que depuis toujours, depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu cherche l'homme. Adam et Ève, le péché, tu es où ? Ils savaient très bien où ils étaient. Ils les cherchent pour retrouver la relation. Dans Ésaïe 65, je lis « À longueur de journée, j'ai tendu, il est question de Dieu, mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie et suivant ses propres pensées. Celui qui suit Jésus se sait appelé et voit ça comme une grâce, comme un cadeau incroyable, que ce soit Dieu qui ait fait le premier pas. » Je ne sais pas si ici, certains ont déjà fait le premier pas dans une relation. Ça coûte, surtout en fonction de la réponse. Ça peut coûter très cher. Dieu fait le premier pas, et la réponse n'est pas toujours positive. Ça coûte alors qu'il est Dieu. Peut-être tu vas me dire, mais d'accord, celui qui suit Jésus, il se sait appelé, mais bon, pour les disciples, c'était facile. Ils étaient là, Jésus est passé, il a dit « suis-moi ». Ça va. Mais nous, là, aujourd'hui, maintenant, comment est-ce qu'il appelle ? Peut-être une conviction de péché, peut-être un mal-être, peut-être la certitude d'être un jour jugé, peut-être la certitude que Dieu est juste dans ses jugements. Peut-être c'est une manière dont il t'appelle pour t'amener quelque part à la foi, à la repentance. Celui qui suit Jésus se sait appelé et admire celui qui l'a appelé. Même il est tellement heureux d'avoir été appelé qu'il a envie de le partager aux autres. C'est un signe de celui qui a été appelé et qui suit Jésus. Il a envie de dire aux autres, mais ce que j'ai vécu est tellement extraordinaire. T'imagines, c'est Dieu qui m'a appelé. Et peut-être qu'il t'appelle aussi. Écoute, au cas où, s'il t'appelle. C'est quelque chose de merveilleux que ce soit Dieu qui le fasse. Quand je suis en réunion et que mon téléphone sonne, je ne réponds pas. C'est normal, je suis en réunion. Par contre, si je suis en réunion, que le téléphone sonne et que je vois Ella, le prénom de ma femme, je sors de réunion et je décroche. Pourquoi ? Parce que c'est Ella. Si ça se trouve, c'est pour demander si on achète le café parce qu'il y a moins de 6 centimes la dosette de Senseo. Okay. C'est pas important du tout, mais c'est ma femme. Donc je décroche. Imagine qu'il y a écrit « Dieu ». Tu décroches ou tu décroches pas ? Si certains dans cette salle se sentent appelés par Dieu et savent que c'est Dieu. À un moment donné, le meilleur conseil que j'ai à donner ce soir, décroche. Celui qui suit Jésus se sait appelé, voit ça comme un privilège. Ensuite, il écrit que Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Est-ce qu'il faut le relever ? Bah oui, quand même. C'est quand même un petit peu étrange qu'il annonce à ceux qui vont le suivre quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Seule chose qu'ils savent, c'est que Jésus va les équiper. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est quoi des pêcheurs d'hommes ? Voilà. Ils ne connaissent pas leur mission, ils ne connaissent pas leur avenir et ils sont appelés à suivre. Le quotidien, la journée type, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça ressemble à quoi ? Je vais t'équiper, tu verras. Ah oui, sympa, ça a l'air bien comme boulot. Salaire, liberté d'initiative, je vais t'équiper. Responsabilité, carrière ? Je ne sais pas, vous auriez réagi comment, vous ? Peut-être j'aurais moi au moins demandé, Jésus, pourquoi moi ? Pourquoi nous les 12 ? Je ne sais pas, tu as fait des tests de caractère au niveau de l'énéagramme, on passe bien ensemble, on a tous les types qui sont là réunis ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'est nous ? Ou peut-être, ah, je sais, Mathieu, parce qu'il est péager, quand il faudra négocier au péage, il a des potes. Et Pierre, quand on a faim, il sait pêcher. Au final, quand il faudra de l'argent pour les péages, il enverra Pierre prendre un poisson qui aura une pièce dans la gueule. Bon, il ne fait pas comme on le prévoit, visiblement. C'est étrange, mais quand on connaît le Dieu de la Bible, ce n'est pas exceptionnel que Jésus fonctionne comme ça. Qu'il donne une mission sans vraiment l'expliquer et qu'il demande à ce qu'on fasse confiance. Abraham, ça vous dit quelque chose ? Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il dit juste, suis-moi et tu vas voir ce qui se passe. Est-ce que ça vaut le coup ? Tu veux tout calculer pour savoir si ça vaut le coup ? Suis-moi. Fais-moi confiance. Je vais t'équiper. En fait, ce n'est pas exceptionnel, même si ça nous semble étrange. Celui qui suit Jésus, donc, il se sait appelé, il voit ça comme un cadeau, et il se sait en mission, et il sait que c'est Dieu qui définit la mission. Il sait qu'il ne va pas tout comprendre maintenant, mais qu'au fur et à mesure, il va voir quelle est cette mission. Il ne compte pas sur ses propres compétences, il sait que Dieu va l'équiper. Il obéit, il dépend de Dieu au quotidien, et il avance. Ensuite, Jésus dit « Suivez-moi ». Celui qui suit Jésus le suit. C'est pas mal ça. C'est un point qui mérite d'être relevé. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il le suit totalement. Il ne suit pas juste comme ça. Là, quand Jésus a demandé de le suivre, il n'a pas dit « Est-ce que vous avez une heure ?» Il n'a pas dit « Je sais que vous êtes pas mal chargé en ce moment. Est-ce que vous pourriez juste me consacrer un petit peu de temps ?» Est-ce que vous avez une vie à donner ? Les disciples le connaissent à peine. On est dans Matthieu chapitre 4, ici, si on prend le texte parallèle dans Marc, on est dans Marc 1. On voit que dans Jean 1, quelques-uns le connaissaient, mais ils ne le connaissent presque pas. Tu veux bien me donner ta vie ? C'est étrange, non ? En même temps, quand on connaît le Dieu de la Bible, ce n'est pas exceptionnel. En fait, il est Dieu, nous sommes des humains. C'est lui qui fixe les règles. Quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Image, MMS, oui, on en voit des images. Son image morale, mentale et sociale, MMS, facile à retenir comme ça, ok. Ouais. Son image morale, chaque fois qu'on se bat pour la justice, on prouve qu'on est créé à l'image de Dieu. Son image mentale, chaque fois qu'on résout une équation, on prouve qu'on est créé à l'image de Dieu, qu'on le veuille ou non. Image sociale, chaque fois que je prends un enfant dans les bras, que je le veuille ou non, je prouve que je suis créé à l'image de Dieu. Dieu a choisi que ce soit comme ça et ensuite il a dit « Multipliez-vous ». C'est lui qui choisit la mission. C'est juste normal, en fait. Il est Dieu. Multipliez-vous, répandez cette image de moi sur toute la terre. Dupliquez ce MMS sur toute la terre. Bon, le péché est venu, l'homme a dupliqué autre chose. Il reste un peu quelque chose du MMS quand même. Et puis quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, là aussi, c'est lui qui a donné un ordre, une mission. C'est normal. En fait, celui qui suit Jésus est totalement dévoué à Jésus. Et il trouve ça normal, parce que c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec suivre selon ce monde, les followers, ceux qui suivent. Tu peux suivre plein de personnes en même temps. Lui, je le suis. Quand tu suis Jésus, tu ne suis que Jésus. C'est une vie complètement dévouée à Jésus. Une vie complètement différente. Et en plus, celui qui suit Jésus voit ça comme un cadeau. Ouais. Un cadeau d'avoir le droit de suivre Jésus. Ça semble un peu fou, non ? Imaginez, vous pouvez vivre 3 ans sur terre avec Jésus. Vous allez le suivre, le voir vivre. En fait, il offre son intimité. Est-ce que toi, tu as déjà dit à quelqu'un, tu es peut-être un peu jeune, est-ce que tu veux vivre avec moi pendant 3 ans ? Moi, il m'arrive, en famille, on héberge des colocs parfois pour 1 an. Ben, autant vous dire qu'on réfléchit à 2 avant d'inviter quelqu'un. C'est engageant au niveau de l'intimité de dire à quelqu'un, viens dans la chambre à côté de moi pendant 1 an. Viens manger avec moi tous les repas pendant 1 an. Jésus a offert cette intimité. Et ce n'était pas facile tous les jours avec les disciples qu'il avait. En fait, celui qui suit Jésus ne fait que ça. C'est sa passion de suivre Jésus et il le voit comme un cadeau, le cadeau de l'intimité. Celui qui suit Jésus aime Jésus plus que tout, renonce à lui-même pour le suivre. Un texte biblique le dit carrément, clairement comme ça. Fin de mon premier zoom. Si on regarde juste au moment de l'appel et qu'on se dit quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui suit Jésus, il se sait appelé, c'est un cadeau. Il sait qu'il a une mission qui est confiée par Jésus et il aime Jésus plus que tout. Il est prêt à tout renoncer, à renoncer à lui-même juste pour le suivre. Si on joue au qui est-ce, là, on en est où ? Il y en a déjà quelques-uns qui sont tombés ou on est encore tous là ? Je ne demande pas forcément de réponse tout de suite. Parce que ça continue. Deuxième zoom. Lorsque Jésus décrit ceux qui le suivent, peut-être on se dit ça va aller mieux. Après Matthieu 4, il y a Matthieu 5. Dans Matthieu 5, on va voir que Jésus décrit ceux qui le suivent. Et ils ne sont vraiment pas comme tout le monde. Ils sont vraiment extrêmement différents. Presque même à l'opposé de tout le monde. Je ne sais pas si certains ici connaissent un film culte d'il y a très longtemps, Raster Rocket. On voit un gars qui se regarde dans un miroir. Il se regarde dans un miroir et il dit « Je vois un type fier, un type fort, un type qui peut être très méchant, qui a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. » Ben celui qui suit Jésus, c'est un petit peu tout sauf ça. Dans le miroir, il voit un caractère particulier, il voit une mission spéciale, il voit une morale parfaite. On va zoomer un petit peu. J'imagine qu'au fur et à mesure, l'air de rien quand même, on va finir par se poser la question, qui est cette personne qui suit Jésus ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que c'est moi ? On continue tranquillement. Le caractère de celui qui suit Jésus. Matthieu 5, le début, les béatitudes. On ne va pas tout lire, je lis juste deux versets. Le premier, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Voilà le caractère de ceux qui suivent Jésus. Ils ont conscience de leurs imperfections, ils n'essayent pas de cacher leurs fautes, leurs péchés, ils ne relativisent pas le mal, ils ne chargent pas un autre. Je pourrais juste rester sur le « ils ne cachent pas leurs fautes ». Ting, ting. Je ne dis pas à quel moment je suis tombé, hein. Ils ont reconnu leurs fautes un jour et ils les reconnaissent chaque jour, encore et encore. C'est étrange. Est-ce que c'est exceptionnel quand on connaît le Dieu de la Bible, qui résiste aux orgueilleux mais qui fait grâce aux humbles ? Et ce n'est pas tout. Non seulement celui qui suit Jésus reconnaît ses imperfections, reconnaît sa pauvreté spirituelle, mais en plus il pleure. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, certains pleurent plus que d'autres. Mais il est question de quoi quand il est question de pleurer ici, d'après la Bible ? Parce que je pourrais inventer des trucs, hein, mais vu que je ne vais pas me tromper, j'ai regardé d'autres textes de la Bible qui disent « Quand est-ce que celui qui suit Jésus pleure ?» Et j'ai trouvé au moins 5 raisons pour lesquelles on est appelé à pleurer. Celui qui suit Jésus pleure en voyant son propre péché, ses imperfections, au lieu de se chercher des excuses. Jacques 4, verset 9, « Reconnaissez votre misère et pleurez. » Il pleure en voyant le péché des autres, des frères et sœurs, au lieu de se réjouir que lui est tombé et que moi je suis debout. Il pleure en voyant le péché des autres. Il pleure en pensant à tous ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, au lieu de s'en foutre et de se dire « Tant mieux pour moi ». Il pleure en voyant son prochain dans la peine, pleurer avec ceux qui pleurent comme Jésus l'a fait quand Lazare était décédé. Il pleure aussi simplement en acceptant sa condition humaine, que parfois, ici-bas, sous le soleil, il y a des temps de pleurs, comme Jésus a lui-même pleuré avant sa mort physique, Hébreux 5, verset 7. C'est hyper surprenant en fait que Jésus décrive le caractère de ceux qui le suivent de cette manière-là. Il commence en disant qu'ils reconnaissent leurs échecs, qu'ils pleurent et qu'ils sont heureux en cela. Ils trouvent leur consolation en Dieu. Où est-ce que tu trouves ta consolation ? Qui est-ce ? Où est-ce que tu trouves ta consolation ? En Dieu ? L'être humain normal, à mon avis, et je bosse avec des étudiants, dans le divertissement. Tristesse, divertissement. Et là, on a différentes manières, hein, différentes habitudes. si je pense à des discussions avec des étudiants, ça peut être tristesse, loisir. Tristesse, film. Tristesse, penser à autre chose. Tristesse, manger, frigo, clac, clac. Ça marche bien, ça aussi. Tristesse, acheter, internet, clac, c'est livré. Tristesse, sortir. Tristesse, ami. Tristesse, jouer. Tristesse, porno. Tristesse, divertissement. Tristesse, consolation en Dieu. Ça, c'est celui qui suit Jésus. Il est humble, il pleure sur son péché et trouve sa consolation en Dieu. Je du qui est-ce ? Je pense que petit à petit, vous comprenez qu'il y a une question qui se pose. C'est est-ce qu'il y a une personne qui va rester ? Par contre, est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus ? Moi, je ne sais pas, quand je vois tout ce qui est décrit, je me dis, waouh, ça a l'air génial cette vie, quand même. Mais peut-être je me dis, je ne suis pas à la hauteur. On continue. Après parler du caractère, Jésus va parler de la mission de ceux qui le suivent. Je vais passer rapidement, on a déjà parlé de la mission. Vous le voyez dans Matthieu 5, sel et lumière. Ils veulent contribuer à célébrer la gloire de Dieu. Ils ne sont pas en train de voir comment est-ce qu'eux vont pouvoir être honorés. Ce qu'ils cherchent, c'est à ce que Dieu soit honoré. Celui qui suit Jésus vit pour célébrer la gloire de Dieu. Ça vaut le coup de le suivre ? C'est ton profil ? En fait, qui peut suivre Jésus ? Qui peut se dire tout le temps ce que je suis en train de chercher, c'est la gloire de Dieu et pas mon bien-être ? On a presque envie de dire à Jésus, ce serait bien que tu baisses un peu la barre, de manière à ce que tu ne sois pas tout seul. Tu vois ? On est en mode un peu compatissant, tu vois ? Parce que si tu la mets aussi haut que ça, nous, on ne peut pas. Et en fait, quand Jésus continue sa présentation des citoyens de son royaume et qu'il arrive à la morale, au lieu de baisser la barre, on a l'impression qu'il monte la barre. Encore et encore. Au niveau de la morale, ce sera la perfection. Je paraphrase Matthieu 5, versets 21 à 48. Au niveau de la morale, Jésus dit ceux qui me suivent, ils ne sont pas en mode « ça passe ». Ils sont en mode « perfection ». Ils visent la perfection. Alors à l'époque de Jésus, ils étaient nombreux, les religieux, les personnes de bonne famille, à chercher ce qu'eux avaient envie et en même temps à essayer d'avoir bonne conscience. La corde raide. À être bien vu et en se disant « ça passe au niveau de la conscience ». Je vis pour moi, mais ça ressemble à je vis pour Dieu. 2000 ans plus tard, je ne sais pas si cette espèce existe encore, je vous laisse faire l'analyse. Mais si on survole Matthieu chapitre 5, versets 21 à 48, on voit que celui qui suit Jésus, quand il lit la Bible et qu'il lit « tu ne commettras pas de meurtre », il ne se dit pas « tiens, si j'allais le plus loin possible vers le meurtre sans commettre de meurtre, et que je m'arrête juste à la ligne qui dit que c'est péché ». Celui qui suit Jésus marche dans l'autre direction en réfléchissant à comment être en paix avec la personne pour qui il avait de la haine. Une vie qui n'a rien à voir, un demi-tour. Parce qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens marchaient plutôt dans cette direction. Et ils donnaient 40 coups de bâton moins 1. Parce que 40, t'es mort, 40 moins 1, t'es un légume. Mais du coup, eux, au niveau de la loi, ils étaient clean. C'est-à-dire, ils n'avaient pas tué, ils n'avaient pas commis de meurtre. La noblesse. 40 moins 1, on ne dit même pas 39, on dit 40 moins 1. Comme ça, on sait bien de quoi on parle. C'est juste avant la ligne qui s'appelle péché. Là-bas, c'est péché, moi, je suis là. Au niveau de la conscience, je suis à l'aise. Ok. Celui qui suit Jésus, quand il dit « tu ne commettras pas d'adultère », il ne se dit pas « comment est-ce que je peux aller le plus loin possible sans franchir cette ligne péché ?» Il se dit « comment est-ce que je peux marcher dans l'autre direction pour respecter Dieu et mon prochain ?» Je travaille avec des étudiants, je vous l'ai déjà dit. Alors je réponds souvent à des questions que les étudiants me posent. Par exemple, Pascal, par rapport à ma copine, au niveau relation physique, tu penses qu'on peut aller jusqu'où ? Alors je réponds un peu ce que ma maman me répondait quand on faisait les courses quand j'étais petit. On ne touche que ce qu'on achète. C'est pareil à Carrefour. mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas à moi de t'expliquer où on va tracer ce trait ici, où à partir de là, ça s'appelle péché. Parce que c'est pas ça, suivre Jésus. Tu peux faire le trait où tu veux, en fait. Moi, ce que je te propose, suivre Jésus, si on regarde ensemble le texte, c'est marcher dans une autre direction. Et si de toute façon, tu es en train de réfléchir comment je peux bénir Dieu et comment je peux bénir cette personne, tu ne seras pas en train de te poser la question que tu te poses là-bas. C'est une autre vie, en fait. Elle n'a rien à voir, cette vie-là. J'imagine que vous voyez la différence. Celui qui suit Jésus cherche simplement à honorer Dieu. Je vais vous illustrer. Je disais que quand j'avais 17 ans, je ne savais pas vraiment ce que c'était que suivre Jésus. Et c'est vrai, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je pensais que dans ma vie, il me restait deux péchés. Bon, c'est grave, c'est pas beaucoup. Et qu'une fois que ces deux péchés allaient être vaincus, je serais bien. Et Dieu pourrait être fier de moi, quelque part. Mais en réalité, je ne cherchais pas à suivre Jésus. Je marchais dans une autre direction. J'avais une mauvaise définition de ce qu'est le péché. Et puisque j'avais que deux péchés, j'avais très rarement besoin du pardon de Dieu. Donc en fait, je n'avais pas besoin de Jésus. Je n'avais pas besoin de la croix, en vrai. Je ne le disais pas, j'étais chrétien. Enfin, je le pensais. Et du coup, je n'aimais pas beaucoup Jésus, parce que quand on n'est pas beaucoup pardonné, on n'aime pas beaucoup. Et vu que je n'avais pas besoin de beaucoup de pardon, vu que j'étais peu pécheur, c'est comme ça que je voyais la vie chrétienne. Comme un religieux de bonne famille. De bonne famille, j'ai même un nom alsacien. Le péché pour moi, c'était cette ligne qu'il ne fallait pas franchir, parce que de l'autre côté, c'est mal. Ça, c'était ma définition. Une ligne ici, de l'autre côté, c'est mal. Aidez-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qui est péché de l'autre côté, là? Des choses qui ne sont pas bien. Ça, c'est péché. Tuer, ça, c'est pas bien, ça. Voler, c'est pas bien. Je l'ai pas compris, celle-là. Adultère, ça, c'est pas bien. Ah oui, on va penser aux 10 commandements, etc. Et on va dire, ça, c'est pas bien. Ok, c'est comme ça que je définissais le péché. Et du coup, j'étais souvent de l'autre côté. Et du coup, je me sentais assez bien, en fait. Je sais pas comment toi, tu te situes par rapport à cette ligne. Peut-être même tu as l'expérience, parce que moi, j'avais 17 ans, donc j'avais déjà un petit peu d'expérience avec ce fonctionnement. J'avais même réussi à pousser un peu la ligne, en ayant encore bonne conscience. Tu sais faire ça? Ça demande un peu d'expérience. Mais, par exemple, le vol. On est d'accord que c'est pas bien. Mais télécharger de la musique, ils s'en mettent plein les poches, non? C'est abusé, ça. T'achètes des supports vierges, tu payes déjà la SACEM dessus, mec. Tu payes deux fois si t'es honnête. Vous voulez que je vous convainque? Et comme ça, petit à petit, on éloigne cette ligne. Et on a besoin de moins en moins de pardon. Super, de moins en moins de Jésus. C'est pas ça, suivre Jésus. Cette expérience de repousser la ligne en se sentant toujours à l'aise. Tout le monde le fait, c'est pas si grave. Quand je présente la vie chrétienne à mes enfants, je leur présente ces deux directions et je leur dis, si tu veux la vie pourrie par excellence, parce qu'on dit suivre Jésus, ça vaut le coup? Oui ou non? La vie pourrie par excellence, elle est là. Vas-y. Définis le péché comme ça, marche vers là, tu ne vas pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre là-bas, tu ne vas pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre là, tu es là en train de flirter avec cette ligne, ta vie est pourrie. Je l'ai testée. Elle est pourrie. Tu sais comment tu peux repérer si tu es en train de vivre cette vie-là? Une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'eux? Ben en fait, quand tu regardes vers là, un chrétien il a le droit de tout. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'aller en boîte? Ben écoute, si tu vas aller en boîte avec ta guitare pour annoncer l'évangile, va en boîte. Si tu t'es posé la question le matin, comment est-ce que je vais honorer Dieu aujourd'hui? Et que tu dis, ben tiens, je pourrais aller en boîte avec ma guitare, mais vas-y! Tout est permis. Mais bon, la plupart du temps, quand je pose ce genre de questions, est-ce que je peux draguer deux personnes en même temps? Est-ce qu'au niveau de la tenue vestimentaire, est-ce que... C'est probablement que tu es plus en train de marcher dans ces directions. Il y a des exceptions. Est-ce qu'un chrétien a le droit de donner ses organes? Est-ce que... okay. Elles sont très très rares. La plupart du temps, quand on se pose ce genre de questions, on marche dans cette direction. En fait, celui qui suit Jésus s'est repenti. Il a fait un demi-tour, il ne marche plus dans cette direction. Il marche dans cette direction. C'est sa nouvelle vie. Il sait qu'il est appelé par grâce. C'est un cadeau. Il sait qu'il a une mission, célébrer la gloire de la grâce de Dieu. C'est ce qui l'anime le matin. Ce n'est pas comment est-ce que je vais m'éclater, comment je vais passer une bonne journée. C'est comment je vais pouvoir honorer Dieu aujourd'hui. C'est ça ma prière du matin. Il aime Jésus plus que tout. C'est normal, il a été pardonné de beaucoup. Et il renonce à lui-même. Il veut vivre pour Jésus. Et donc, quand il va lire la suite de Matthieu 5, par exemple, en ce qui concerne le divorce, la lettre de divorce, il ne va pas se dire, tiens, comment est-ce que je peux aller le plus loin possible pour respecter la loi et quand même divorcer en ayant bonne conscience? Oui, parce que dans Deutéronome 24, il y a écrit que si ta femme fait quelque chose d'inconvenant, tu as le droit de divorcer. Ça, c'est classe, on ne sait pas ce que ça veut dire inconvenant. Du coup, on peut l'analyser nous-mêmes. Et à l'époque de Jésus, il y en a qui avaient trouvé un truc. Alors, brûler hein, le repas quand il y a des invités, c'est hyper inconvenant, on est d'accord? C'est inconvenant, c'est grave ça. Donc mon ami, enfin, si ça ne marche pas bien dans le couple, invite du monde. Plein, à un moment donné. Et c'est comme ça qu'il jouait avec la loi pour avoir bonne conscience. Est-ce que c'est ça que la loi voulait dire? Mais non. Autant que tu peux construire, construis. Autant que c'est possible, travaille cette vie de couple, continue. C'est marcher complètement dans l'autre direction. De même pour le mensonge. Figure-toi que les pharisiens avaient trouvé une astuce. Ils avaient trouvé comment mentir en ayant bonne conscience. Si tu jures sur le temple, mais sur l'or du temple, il y en a un, t'es engagé, l'autre, t'es pas engagé. Et croiser les doigts. Ils avaient trouvé une astuce pour dire quelque chose et avoir le droit de mentir en ayant bonne conscience. Ben non, en fait, dis oui et dis non. Enfin, dis juste la vérité, en fait. Marche dans l'autre direction. Celui qui suit Jésus définit pas le péché par une ligne qu'il ne faut pas franchir. Il définit le péché comme regarder dans cette direction. C'est tout. Il est en train de marcher. Il veut honorer Jésus. Il l'aime plus que tout. Il veut sa gloire. Et dès qu'il regarde dans l'autre direction, il appelle ça péché. Manquer la cible pour laquelle il est sur terre. Manquer la mission pour laquelle il est sur terre. Alors probablement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que franchir la ligne. Probablement, du coup, il aura besoin de beaucoup plus de repentance, de demi-tour, pour regarder dans l'autre direction, celui qui suit Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense d'ailleurs qu'une journée sans repentance, c'est pas une journée où on n'a pas péché, c'est une journée où on a accepté le péché dans nos vies. Ça prouve qu'on a cette définition du péché. Parce que si on a cette définition du péché qui est faire demi-tour alors que je suis en train de marcher pour vivre pour Jésus, chaque jour, il y a repentance. Parce que bien sûr, je regarde dans l'autre direction. Je pleure, mais je suis pardonné. Je suis donc heureux. Alors ma mission ce soir, c'était de vous présenter à quoi ressemble celui qui suit Jésus. Moi, j'arrive au bout. Maintenant, la question vous est posée à vous. Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que c'est moi? Si je suis honnête. Alors, on se dit quand même encore qu'il faudrait conclure en baissant la barre. Quand même, à un moment donné, Pascal, va falloir la baisser. C'est pas moi, c'est Jésus. Jésus, à un moment donné, il va falloir baisser la barre. C'est ce que les pharisiens ont pensé aussi. Dans l'Ancien Testament, ils avaient trouvé 613 commandements. Mais au lieu de 613, ils en ont fait 6000. Ils en ont ajouté plein. On se dit, ah ouais, eux, ils étaient vraiment au taquet. Non, non. C'était des commandements pour pouvoir permettre de baisser la barre pour pouvoir passer eux-mêmes, sans avoir besoin d'aide extérieure. Par exemple, ils ont rajouté des commandements. Il y avait un commandement qui disait qu'il faut honorer ses parents, mais eux, ils avaient rajouté, il faut honorer tes parents, mais bon, si tu donnes de l'argent au temple, ça peut remplacer honorer tes parents. Ben moi, je dis qu'en fonction de tes parents, c'est une bonne affaire. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Ils ajoutaient des commandements pour simplifier les choses, pour pouvoir passer eux-mêmes en ayant bonne conscience. Waouh ! Et on pourrait faire pareil. On pourrait ajouter des commandements qui font que parce que moi, je lis ma Bible tous les jours, du coup, ça gomme les péchés que j'ai à côté. Waouh, classe! Mais Jésus, lui, monte la barre. Sa conclusion dans Matthieu 5, c'est « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il ne descend pas la barre pour qu'on la passe. Il la monte encore plus. Alors, qui est-ce celui qui suit Jésus? Il ne reste plus que Jésus tout seul. Hein. Oui. Ça pourrait être la conclusion. Et ce serait normal. Ce ne serait pas extraordinaire d'arriver à cette conclusion de juste dire qu'en fait, il n'y a que Jésus qui peut suivre Jésus. C'est, voilà, il n'y a que lui. Il est le seul. Mais quand on connaît le Dieu de la Bible, on n'est pas surpris de voir que le Dieu de la Bible ne voulait pas que Jésus soit seul. Et qu'il avait un plan, qu'il a tout mis en place pour que Jésus ne soit pas seul. La conclusion ne sera donc pas la barre est trop haute et Jésus sera le seul à passer. La conclusion, c'est un petit verset qui est caché dans Matthieu 5. Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est venu pour accomplir la loi. La barre est trop haute pour suivre Jésus, il fallait baisser la barre ? Non. Jésus est venu baisser la barre ? Non. Jésus est venu passer cette barre que personne d'autre ne peut passer. Il a accompli la loi. Et il offre à tous ceux qui croient en lui d'être cachés en lui au moment où il saute cette barre infranchissable de la perfection morale. Comment a-t-il accompli la loi ? Ben, il l'a accompli parce qu'il était parfait dans l'amour pour le Père, parfait dans l'amour pour son prochain. Il a accompli ce que personne d'autre ne peut accomplir. Comment est-ce qu'il a accompli la loi ? Ben, il l'a accompli parce qu'il a accompli toutes les prophéties qui concernaient le Messie. Comment est-ce qu'il a encore accompli la loi ? Ben, il l'a accompli parce que la loi dit que s'il y a péché, il y a colère de Dieu. Justice ! Il a pris sur lui la colère. Il a accompli la loi en cela aussi. Qu'il est mort pour nous, qui ne passons pas la barre. Celui qui suit Jésus sait qu'il suit le seul qui a passé cette barre et contemple celui qui nous a tellement aimés au point de donner sa vie pour passer cette barre infranchissable et nous offrir d'être cachés en lui au moment où il passe cette barre. Et donc, ce n'est pas étonnant que ceux qui suivent Jésus se savent appelés par grâce et voient ça comme un cadeau incroyable d'être appelés par Jésus. Se savent missionnés par Jésus pour célébrer la gloire de sa grâce et voient ça comme un cadeau merveilleux de pouvoir parler de cette grâce. Veulent l'aimer plus que tout, renoncer à eux-mêmes, veulent le suivre. Et voient ça comme un cadeau d'intimité que Dieu offre. Sont humbles, pleurent sur leur péché. Oui, quand on a la bonne définition du péché, on pleure souvent. Mais ils trouvent leur consolation en Dieu. Et ils aiment beaucoup parce qu'ils sont pardonnés de beaucoup. Ça, c'est suivre Jésus. Qui est-ce ? Est-ce que tu es à la hauteur ? Personne n'est à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. Mais on peut se repentir. On peut dire que Jésus est notre héros. Et qu'en lui, c'est quelque chose qu'on peut vivre. On peut dépendre de lui. On peut lui dire, je ne peux pas vivre cette vie-là, mais je veux te faire confiance. Tu m'encourages à la vivre, je veux te suivre. Aide-moi, viens à mon secours. Je ne serais pas capable de tenir une journée en marchant dans cette direction du matin au soir. Je suis incapable. J'ai plus 17 ans, mais je n'ai pas tenu une seule journée en regardant dans cette direction du matin jusqu'au soir, depuis mes 17 ans jusqu'aujourd'hui. J'en suis incapable. Viens à mon secours. Et tu veux me secourir. Merveilleux, ça vaut le coup de te faire confiance. Voilà ce qu'est quelqu'un qui suit Jésus. J'imagine que vous avez la définition. Qui est-ce ? Est-ce que ça vaut le coup, cette vie-là ? En tout cas, vers là, il y a une vie qui est moisie. Peut-être certains l'ont expérimenté. Est-ce que ça vaut le coup, cette vie-là ? Je vais prier. Notre Dieu, nous te remercions parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et quand on te connaît, on est presque plus surpris de cela, mais extraordinaire que tu as voulu un plan pour que nous puissions passer cette barre de la perfection, cette barre qui est infranchissable pour nous, que nous puissions la passer cachée en toi. Merci pour ton œuvre, merci pour cette main tendue. Merci parce qu'aujourd'hui, on peut te suivre, pas par nos propres forces, mais en comptant sur toi. On est complètement incapable de vivre cette description de vie à ta suite. Mais tu peux la produire en nous. Oui, on veut faire tous nos efforts, mais on sait qu'en faisant tous nos efforts, on est incapable. Mais merci parce que ce n'est pas un obstacle pour toi. Tu peux nous équiper en chemin. Oh mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui ce soir ici se posent la question, est-ce que ça vaut le coup ? Permets qu'ils puissent entendre ton appel et décrocher. Amen.
Si toi, personnellement, tu as aussi ce combat dans ton cœur entre chercher la gloire de Dieu et peut-être décaler la ligne du péché, ben, ne pars pas d'ici sans avoir parlé à un de nous. On est là pour prier pour toi. On est là pour que tu puisses avancer avec le Seigneur, faire un pas après le moment du culte encore. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage. Prenez votre courage à deux mains. Et si le Seigneur vous a parlé, faites un pas vers un de nous pour prier ensemble et vous confier. Pendant tout le week-end, donc aussi ce soir, le Forum du Livre a installé ses stands à l'arrière avec des livres. Donc vous pouvez faire le tour. Et vous pouvez aussi payer avec votre passe culture. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le passe culture, c'est à partir de 17 ans, vous téléchargez une application passe culture et vous recevez un avoir, il me semble 150 € ou un truc comme ça, pour 17 et 18 ans. Et donc vous pouvez utiliser cet argent pour acheter des livres et d'autres choses culturelles. Et on peut aussi payer au Forum du Livre avec ce passe culture. À l'arrière, vous trouvez aussi un stand Omicross. Alors, peut-être que un des bénévoles Omicross veut bien venir pour donner un peu plus d'infos sur Omicross. Est-ce que vous connaissez Omicross ? Ouais, il y en a quelques-uns qui ont déjà fait Omicross ? Ouais, cool. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je laisse Ephraim expliquer un peu de quoi il s'agit.
Allô, allô ? Bonsoir. Alors, donc je fais ça encore une fois la même question, mais vous pouvez lever la main. Qui a déjà vu une fois Omicross ou a participé déjà à un camp Omicross ? Ok, ceux qui ne lèvent pas la main, vous pouvez regarder autour de vous. Donc je ne suis pas le seul capable de faire la pub pour ce projet. Qu'est-ce que c'est exactement ? J'ai même ramené un petit slide qui va peut-être s'afficher. Non, presque. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, Omicross, c'est un projet qui est né il y a 4 ans déjà. Et nous, on fait des projets de comédie musicale avec cette année jusqu'à 60 jeunes. Donc, on a déjà presque 50 inscrits. Il n'y a plus trop de place. Et il y a du théâtre, de la danse et du chant. Et l'objectif, c'est de monter. Donc, on fait un camp d'une semaine. Et pendant cette semaine, on prépare une comédie musicale sur une histoire de la Bible. Cette année, ça sera Esdras. Et les 3 derniers jours de la semaine de camp, on fera 3 représentations dans le Grand Est. Cette année, on sera à Gauxwiller, c'est au sud de Strasbourg, à Villers-les-Nancy, donc voilà, c'est pas que l'Alsace, et Bichwiller. Donc, tout le monde, vous pouvez déjà sortir vos téléphones, peut-être, et vous noter, samedi 1er novembre, on sera pour notre dernier spectacle à Bichwiller dans la MAC. Voilà. Et on a encore 9 places. Donc, si toi, tu as entre 13 et 20 ans et que tu as envie de participer sur scène, donc il faudrait vouloir chanter dans la chorale, mais aussi jouer du théâtre ou la danse ou faire une deuxième voix. Tout ça, c'est possible. Il y a encore 9 places. Inscrivez-vous. Aussi les garçons, hein. On a 10 garçons inscrits, mais on a aussi besoin des garçons. Aussi des filles, c'est très bien. Et un petit wanted, s'il y a des jeunes ici qui jouent la guitare électrique, la basse électrique ou le synthétiseur, notre comédie musicale sera accompagnée en live. Voilà, donc on est encore là aujourd'hui et demain avec un stand si vous avez des questions. Et si vous voulez choper une des dernières 9 places, inscrivez-vous. Voilà. Merci et j'espère à bientôt.